Du 3 au 13 décembre, hashtag 2050 le podcast, votre shoot de futur, passe en édition spéciale, ancrée dans le présent, à l'occasion de la COP25 qui se tient à Madrid. 10 jours d'une quotidienne pour comprendre la COP, découvrir les acteurs qui y contribuent, des initiatives, mais aussi entendre des voix peu entendues et pourtant engagées dans la lutte contre la crise climatique. Parce que le futur de notre planète se joue ici et maintenant. Nous y sommes, dernière journée de la COP. Vous l'entendez peut-être derrière moi, elle frémit, elle bruisse des derniers instants de négociation. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai rencontré des personnes formidables, inspirantes. Justement, ce dernier épisode de l'édition spéciale hashtag 2050 COP25 s'organise en deux parties. D'abord, je vous propose de faire la connaissance d'Evelyne, une activiste féministe au Nigeria. Dans un second temps, on fera le bilan, calmement, de cette 25e édition de la conférence des parties. Evelyne a 31 ans. Elle travaille au sein d'une ONG, Programme Femmes et Environnement, au Nigeria donc. Lorsque je l'ai rencontrée, quasiment la première chose qu'elle m'a dit, c'était
« I'm a feminist
». Je suis une féministe. Je crois que toutes les deux, nous aurions pu discuter longtemps, mais ici à la COP, tout va vite, tout file. Alors le temps de quelques minutes, j'ai pu en apprendre plus sur son parcours et son activisme du quotidien.
À la base, nous travaillons sur les enjeux environnementaux et nous considérons l'environnement comme un point d'entrée vers les défis liés au développement, au changement climatique, à la paix, l'accès à l'eau et l'accès aux ressources pour les femmes. Nous travaillons à renforcer la voix des femmes pour mieux raconter les histoires des défis qu'elles relèvent en matière d'environnement, sur les impacts du changement climatique, sur les impacts des conflits induits par le climat.
Son quotidien, c'est de redonner du pouvoir aux femmes.
Le monde voit les femmes comme des victimes, mais elles ne sont pas tout le temps victimes. Les femmes sont vectrices de changement. Elles développent des innovations dans leur communauté locale pour conduire le changement qui aura un impact au niveau local, national, en tant que collectif, qui porte une vision plus grande à une échelle globale. Au sein de programmes Femmes et Environnement, nous travaillons à construire des mouvements de femmes qui... Depuis 22 ans, je peux le dire en toute confiance, renforce les capacités des femmes à exprimer leurs problèmes, à faire le récit des changements qu'elles conduisent dans leur communauté. Nous avons redonné du pouvoir à 20 millions de femmes, directement ou indirectement.
Redonner du pouvoir, mais aussi les accompagner vers des positions de leadership, pour que ce soit elles qui prennent les décisions.
Par exemple, au Rwanda, les femmes y accomplissent des changements. Tout le monde parle du Rwanda comme un exemple de réussite. Mais comment ont-ils fait ? Je dis toujours aux gens qu'avoir un programme pour l'égalité est un choix volontaire. Quand je discute avec des décideurs, quand je parle avec des politiques, je vois bien que c'est intentionnel. Il s'agit de discrimination positive, il s'agit de quotas. Oui, les femmes conduisent le changement et influent sur les politiques publiques. Mais au Nigeria, les progrès ont été décourageants. Depuis le retour de la démocratie au Nigeria en 1999, les places des femmes en politique ont progressivement diminué. Mais au sein du programme Femmes et Environnement, nous ne sommes pas abattus. Ce n'est pas facile de faire bouger les choses. Et le patriarcat est encouragé par le système nigérien. Il impacte la vie privée, il impacte la prise des décisions politiques. Mais nous poussons au niveau local pour que les femmes s'organisent, pour raconter leurs histoires, pour pousser au changement. Et nous sommes sûrs dans le futur, il y aura aussi un changement au Nigeria. Nous voyons plus de femmes participer aux négociations de la COP. Plus de Nigériennes participer ou conduire les négociations de la COP. Nous voyons plus de startups fondées par plus d'entreprises arriver. Nous voyons plus de jeunes femmes comme moi prendre la parole et aller vers le changement. C'est la vision du programme Femmes et Environnement, transformer positivement la vie des femmes, jeunes femmes, femmes âgées, femmes handicapées. Nous ne serons pas fatigués jusqu'à ce qu'elle devienne le changement que nous voulons. Un changement qui transforme, inclusif et représentatif des femmes de tous les secteurs.
Et la question que l'on pose à toutes les féministes, je l'ai posée à Evelyne et les hommes dans tout ça.
Une de nos stratégies consiste à travailler avec des agents du changement. Et qui sont ces agents ? Les hommes, qui dans certains cas soutiennent l'objectif, sont aussi des agents du changement. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Il y a la possibilité d'avoir peur que les voix des femmes soient à nouveau noyées. Dans certains cas, nous avons besoin du soutien d'hommes agents du changement pour promouvoir nos enjeux. Donc, nous avons cette stratégie du « lui pour elle » où nous marchons avec les hommes qui sont aussi féministes parce que le féminisme n'est pas juste une question de sexe. C'est un principe. Des hommes qui sont féministes par leur pensée, dans leur approche, dans leur stratégie. Nous avançons avec eux pour nous assurer qu'ils accompagnent nos problématiques.
Quand on est féministe au Nigeria, à votre avis, c'est plutôt banal ? On vous regarde de travers ?
Tu remarques que ça me fait sourire. Il y a cette perception s'agissant du féminisme. Une fois que tu dis que tu es féministe, ça semble générer une perception négative de ce qu'est le féminisme. Mais c'est moi, je suis une féministe, je suis une ambassadrice du féminisme. Je conduis le changement. Je crois que vous avez de jeunes personnes comme moi qui sont le changement, qui racontent des histoires de ce changement qui vient dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Les féministes font des choses utiles. En tant que féministe, je porte les récits et je crée une vision positive pour la société envers le féminisme.
On ne naît pas femme, on le devient. Et en est-il de même du féminisme ? Pour Evelyne, les choses ont été claires très tôt.
Ça a commencé quand j'étais une enfant. Oui, c'est ce qui arrive traditionnellement. Les jeunes filles doivent assurer les rôles domestiques. Je crois que c'était inné pour moi. Donc, il y avait ce problème que j'avais, de mon point de vue, une histoire personnelle que je continue à avoir avec ma mère. Elle voulait toujours que je fasse la vaisselle, nettoie la maison, et je me demandais pourquoi je ne peux pas faire comme mon frère. Il pouvait monter aux arbres, il pouvait faire du vélo, il pouvait jouer aux jeux vidéo. Puis j'ai appris, j'ai commencé à avoir cette prise de conscience, à interroger le système. Pourquoi dois-je agir différemment ? Dois-je dépendre de quelqu'un pour exister ? Et depuis cet âge, je devais avoir 8 ans, je garde cet état d'esprit. Je dois être mon propre changement. J'ai besoin de ma propre identité. Je ne devrais pas être ligotée à quelqu'un d'autre. Je devrais avoir ma propre identité. Oui, c'est comme ça que la prise de conscience est née dès mes 8 ans. Oui, c'était inné, mais j'avais besoin de comprendre ce chemin. J'avais besoin d'une stratégie. J'avais besoin de défaire mon esprit de tant d'endoctrinements culturels et patriarcaux. J'avais besoin de trouver ma propre identité. Mais je ne suis qu'une parmi 20 millions de jeunes Nigérians qui ont toujours besoin d'être atteints. Une goutte dans l'océan. Donc j'appelle, je plaide, j'exhorte la communauté internationale de renforcer le travail qui est engagé, de soutenir de jeunes féministes pour porter des récits positifs et ainsi impacter positivement leur communauté.
N'est-elle pas inspirante, Evelyne ? J'ai discuté avec de nombreuses femmes durant cette COP. Elles venaient du Brésil, du Bangladesh, des Philippines, du Guatemala, d'Espagne, du Bénin. Or, désolée, je n'avais pas toujours soit mon micro, soit le temps ou l'envie d'enregistrer. Mais toutes faisaient ce lien évident entre enjeux environnementaux et féministes. Il s'agit toujours de sortir d'une société de la domination. Et sentir que des quatre coins du monde, ce même élan, cette même perception des luttes anime toutes ces femmes, c'est juste « waouh ». Beau, puissant, fortifiant. Et maintenant, la transition va être un peu brutale. Passer de l'inspiration à l'attentisme. Je crois que ce terme est le bon pour qualifier l'état des négociations de cette COP madrileno-chilienne. Attendu à 13h aujourd'hui, l'inventaire sur l'avancée des négociations présidées par Carolina Schmidt, ministre chilienne de l'Environnement.
Our responsibility to find that agreement. My team and myself will personally engage with groups to seek pragmatism and ambition in the decisions. Thank you all.
Démarre finalement à 14h40. S'ensuit 1h20 de prise de parole des délégations. 25 prises de parole pour être précise, pour émettre des remarques sur le processus en cours, après que la présidente a annoncé la mise en place de 2 groupes de travail pour poursuivre les négociations ce soir. Sur l'article 6, d'une part, relatif au marché carbone, et d'autre part, sur les financements de long terme, y compris les pertes et préjudices. Ce sont d'ailleurs ces deux axes qui concentrent l'essentiel des remarques. Alors je vous le dis tout de suite, si les notions de marché carbone, de pertes et préjudices ne vous semblent pas claires, je vous renvoie aux épisodes qui ont été consacrés, vous trouverez les liens en description. Avant de souligner les points durs, il faut noter que certains pays ou groupes de pays ont relevé que les négociations sont insatisfaisantes en termes d'ambition, comme les îles Marshall ou l'Indonésie qui l'ont clairement dit. Venons-en à l'article 6. Le texte est critiqué sur plusieurs points. Premièrement, le fait qu'il ne reflète pas l'ensemble des négociations et amendements formulés, comme le soulignent la Chine, la Fédération de Russie et l'Iran. Ce dernier précisant que ce qui aiderait serait de ne pas être créatif et de s'en tenir au cadre de l'accord de Paris. Quant aux Philippines, ils insistent sur le manque de transparence du système de comptabilité des marchés carbone, créant ainsi une zone grise. Pour l'Indonésie, le texte tel que rédigé place le fardeau des marchés carbone sur les pays en développement. Pour l'Inde et l'Argentine, le texte manque cruellement d'équilibre. S'agissant des financements, ici ce sont encore les pays du Sud qui s'expriment largement plus que les autres. C'est ainsi que le Guatemala, l'Argentine, le Belize demandent des clarifications sur les dispositifs, en particulier sur le financement des pertes et préjudices. Le Malawi insiste sur le fait qu'il faut des financements et qu'ils soient accessibles et non pas noyés dans des procédures lentes et complexes. Les Philippines demandent ainsi que le système de calcul des pertes et dommages soit remis sur la table. L'Égypte demande à ce que les fonds des pertes et préjudices ne soient pas confondus avec ceux du fonds vert, lui dédié à l'adaptation. L'Iran, quant à lui, demande à ce que l'accès aux ressources financières se fasse sans discrimination. Vous voyez là les enjeux géopolitiques qui sont soulevés. Et vous le constatez, le consensus est loin d'être atteint. Je ne sais pas si les négociations vont aboutir. Au moment où j'enregistre, il est 16h45 et la plénière de clôture, censée être le moment où les textes sont adoptés, doit débuter à 18h. Alors de mon côté, je reste sur place pour la suite des événements. Sans doute que je vous reparlerai des conclusions dans le prochain hashtag 2050 en bref, mais dès maintenant, en live sur mes réseaux sociaux, vous trouverez évidemment plein d'informations. Voilà, c'en est fini de l'édition spéciale de hashtag 2050, le podcast. Vous savez, je me suis sentie vraiment utile à mon échelle tout au long de cette édition spéciale. Vous donner à entendre des voix que peut-être, ou sans doute, si je m'autorise à être un peu présomptueuse, vous n'aviez pas l'occasion d'écouter. Ici, à quelques pas de chez moi, j'ai rencontré le monde entier. Evelyne tient beaucoup à cette question des récits, et ici j'ai entendu ses récits, ses luttes, ses colères, ses joies, cette détermination sans faille pour préserver, réparer le monde. Toutes ces questions vont m'habiter encore plus, je le sens déjà. Je vais continuer à vivre avec mes contradictions d'occidentales, bien sûr, mais j'essaye, je tente de leur laisser moins de place. Les discussions de ces 10 derniers jours m'auront été, je ne sais pas quel est le mot exact, je me sens vivifiée, les yeux plus grands ouverts et à la fois plus petite, insignifiante et à la fois indispensable dans le même mouvement de l'esprit. Bref, j'espère que vous avez appris pendant ces 10 jours. J'espère que vous avez cliqué sur à peu près tous les liens en description dans ces épisodes pour vous permettre d'embrasser un monde plus grand. Merci aux personnes qui m'ont prêté bénévolement leur voix, Dimitri, Bigaston, Antoine, Benjamin, Maxime, Lynn, Brigitte et Fanny aujourd'hui. Merci d'avoir cheminé avec moi, merci de partager, commenter, recommander hashtag 2050 qui reprend dans sa forme habituelle dès la semaine prochaine. D'ici là, encore merci, vraiment, et soyons toujours curieux.